Vous écoutez toujours la Compagnie des auteurs sur France Culture. Nous allons bientôt, en cette seconde partie, être rejoints par le critique littéraire Pierre Lepape pour continuer de parler d'Aragon. Mais avant cela, je vous propose d'écouter une archive, qui est aussi un morceau de bravoure. C'est Aragon décrivant le soir du 8 mai 45, presque à la façon, vous allez l'entendre, d'un commentateur radio.
Cela crie dans toutes les directions. Les avions, les boum boum d'un orchestre, le canon. Revoici les étudiants de tout à l'heure avec le portrait de Staline. Ils crient « Lessivage partout, lessivage partout !» Un grand drapeau anglais sur la foule. Par-dessus l'arc montent des fusées, sous l'arc un immense V. Il y a dans la foule, par-ci, par-là, des gens qui pleurent. Il y a pourtant la joie, malgré les gens qui pleurent. Un quart de police, mais sur ce quart de police, il y a sur les marchepieds des gens perchés. Les quarts de police sont aussi des quarts de joie aujourd'hui. De temps en temps, le canon tonne. Un triporteur passe avec des hortensias roses. Embrassez, embrassez, crient des jeunes gens. L'énorme charroi des avions. Encore, encore des monômes. Un autre monôme est dans les Champs-Élysées. Voici trois soldats soviétiques arrêtés qui nous regardent. Voici des marins couverts de rouge sur les joues tant ils se sont fait embrasser. Voici les petits marchands de drapeaux. Voici des aviateurs, des marins. Voici les Américains qui, s'embrassant deux à deux, chantent pour les Français. Frère Jacques, ding-ding-dong. Quelle journée extraordinaire.
Et un témoignage qui nous arrive par téléphone d'une collaboratrice bien connue des auditeurs de France Culture, Geneviève Méric, qui a travaillé pendant de nombreuses années ici, qui nous dit qu'elle a vu de ses yeux vu Aragon dans les années 70 vendre l'humanité à la sortie d'une église dans le 7e. Décidément, Aragon est partout. Bonjour Pierre Lepape.
Bonjour.
Quelle journée extraordinaire que celle du 8 mai 1945 décrite par Aragon. Il y a tout de même du talent dans la manière de retranscrire l'émotion par cet écrivain.
Ça prouve qu'Aragon pouvait écrire n'importe quoi.
Il pouvait tout faire,
dans,
en fait.
Dans tous les sens du terme, je veux dire. Pas aussi bien dans la célébration lyrique, aussi bien dans la poésie intime. Enfin, tout lui était possible.
Donc tout est n'importe quoi, c'est ça ?
Tout est n'importe quoi, bien sûr. Y compris la littérature la plus détestable, mais il savait aussi l'écrire.
Alors c'est vrai qu'on ne peut pas vous classer tellement parmi les admirateurs d'Aragon, Pierre Lepape. Vous avez notamment écrit en 1997 un petit texte assez virulent à son sujet. Je l'ai sous les yeux, voulez-vous que j'en lise quelques lignes ?
Possible.
Que reste-t-il d'Aragon, stalinien ignominieux, ami félon, amoureux truqueur ? Rien ou presque. Des rancunes qui disparaîtront avec la mémoire de ses contemporains, de la matière à psychanalyse, des énigmes pour biographes, quelques points d'exclamation pour jalonner les chemins tortueux de l'histoire intellectuelle de ce siècle. Vous n'y êtes pas allé par le dos de la cuillère ?
Non, j'aurais dû ajouter qu'il restera quand même des textes, et c'est sans doute l'essentiel, pas Là, c'était une partie des choses,
oui.
Mais ça me paraît aussi évident.
Pour être très honnête, j'ai pris la partie la plus à charge. Vous dites aussi, s'il est vrai qu'Aragon n'eut pas la prudence ou la complaisance de placer ses livres hors d'atteinte des violences partisanes, si même il les y plongea avec un sens affirmé de la provocation, les remous et les clameurs n'ont jamais suffi à masquer l'évidence et l'ampleur de son génie.
Voilà. Bon, c'est mieux comme ça quand c'est complété.
Qu'est-ce qui prédomine alors quand même à la fin ?
ce qui prédomine à la fin, c'est l'énigme du personnage. Je crois que c'est essentiellement ça. Je veux dire, comment est-ce que un jeune écrivain révolutionnaire des années 30 et qui redeviendra dans les années 70 un écrivain révolutionnaire, comment il a pu d'une certaine manière s'abandonner, quel démon intérieur a pu le pousser à s'emprisonner dans une série de masques, dans une série d'attitudes.
Et quand vous dites de masques, vous ne dites pas ça par hasard? Parce qu'il portait lui-même parfois
des masques. Oui, à la fin de sa vie, je me souviens d'Aragon à la fête de l'humanité, portant à la main, sur le visage, un masque de comédien et une émission de télévision qui lui avait été consacrée, une longue série d'émissions de télévision. Qui durait 6 heures et pendant laquelle Aragon n'apparaissait jamais tel que lui-même, mais derrière ce masque totalement fermé qu'il portait devant le visage.
Alors vous avez travaillé au Monde des Livres notamment. Le Monde des Livres, c'était à partir de 1995, je crois.
85.
Ah pardon, 1985. Qu'est-ce qu'on pensait d'Aragon, qui était déjà mort, mais est-ce que c'était une figure qui, au Monde des Livres, avait sa place, et qu'est-ce qu'on pouvait dire sur lui?
Il n'y a pas eu beaucoup de textes d'Aragon qui a été publié après sa mort.
Vous pouviez en parler peut-être entre vous?
On parlait entre nous, mais je crois qu'en globalement, pour dire ce que j'ai dit tout à l'heure, que c'était à la fois un écrivain immense, sans doute peut-être le plus grand écrivain de ce siècle, je le pense profondément. En tout cas un romancier et un poète de tout premier ordre, et en même temps un personnage d'une certaine manière épouvantable.
Et qu'est-ce qui en ferait le plus grand écrivain du siècle?
La multiplicité de ses dons, son savoir. Je veux dire que Breton disait d'Aragon, et Breton était difficile dans la matière, Aragon a tout lu. Et il le disait ça avec même une certaine jalousie, je dirais. Et Aragon avait une connaissance des littératures, mais de la littérature française en particulier, qui lui permettait d'utiliser aussi bien des formes poétiques du XIIe siècle que d'aller à l'avant-garde de la poésie. Et cette capacité-là, même dans ses romans les plus traditionnels, les plus classiques, les plus enfermés dans le réalisme socialiste, il y a toujours quelque chose qui, à un moment donné, déborde de cela et fait que ça n'est jamais sans intérêt.
Alors nous sommes surtout là pour parler avec vous, Pierre Lepape, des liens d'Aragon avec le Parti communiste et de son premier voyage en URSS que vous avez raconté dans votre livre Le pays de la littérature, paru au Seuil en 2003, un voyage qui a eu lieu à l'été 1930, mais avant cela, une petite ouverture soviétique.
Нам бы выпить перед стартом, да другие помешают. Лишь бы старая семерка отработала б свой план. Если даст отказ вторая, мы в Алтае или в Китае. Если третья откажет, здравствуй, Тихий океан. Если даст отказ вторая, мы в Алтае или в Китае. Если третья откажет, здравствуй, Тихий океан. Наше верное корыто нас выводит на орбиту. Тут бы нам как раз и выпить вдалеке от строгих стен. Но за малым остановка предстоит как раз стыковка. И приходит тут на память рукавишников НН. Но
за малым Alors ça y est, Pierre Lepape, on est dans l'ambiance. Vous pouvez нous raconter l'origine de ce voyage en URSS, le premier d'Aragon, c'était dans les années 30.
C'était en 1930, c'était... Alors Aragon ne s'est jamais expliqué sur ce voyage. Qu'est-ce qu'il est allé faire en Union soviétique en 1930? Quand on lui a posé la question, il n'a jamais voulu répondre. Il est toujours resté en disant j'ai préféré l'Union soviétique aux Baléares, ce qui était quand même une manière de... Et évidemment, il est allé... Il y avait un congrès des écrivains de prolétariens...
Le plénum de Kharkov.
À Kharkov, qui avait lieu à ce moment-là. Il y avait pas de délégation française. La délégation française avait été annulée. C'est-à-dire que c'est Henri Barbusse, qui était un militant communiste tout à fait traditionnel, parfaitement fidèle, qui mourra d'ailleurs à Moscou quelques années plus tard. Mais Barbusse était l'ennemi des surréalistes. Et en tout cas, les surréalistes voulaient la peau de Barbusse. Et Barbusse était mal vu par les apparatchiks communistes de Moscou. Et donc, on a décidé qu'il n'y aurait pas de délégation française à ce congrès international des écrivains prolétariens.
Mais là, coup de théâtre, il se trouve que les vacances d'Aragon sont précisément dans l'Union soviétique. Pas tout à fait les vacances d'ailleurs, parce qu'il avait une raison quand même familiale pour se trouver en Union soviétique.
Il allait voir Lili Brik, qui était la sœur et la maîtresse de Maïakovski. Qui venait de mourir. Et donc, Brik a entraîné un peu Aragon avec lui. Brik faisait partie d'une aile gauche du mouvement prolétarien. Et il a essayé de pousser un peu Aragon à l'aider. Aragon a retrouvé, faut dire aussi, Georges Sadoul, le futur grand critique de cinéma. Et tous les deux, d'une certaine manière, ont été adoubé pour devenir la délégation française là-bas. Mais avant, ils ont été obligés de signer un texte. Et dans ce texte en particulier, ils dénonçaient le deuxième manifeste du surréalisme et ils dénonçaient le surréalisme comme un mouvement petit bourgeois.
Donc c'est-à-dire que Aragon, qui est à l'époque encore surréaliste, officiellement, dénonce ce à quoi il appartient. C'est quand même quelque chose.
Oui, oui. L'idée, c'est je vais d'une certaine manière, peut-être poussé par Elsa, je vais devenir la tête de pont entre Paris et Moscou. C'était peut-être ça son idée politique.
C'est ce que vous croyez, vous? C'est votre hypothèse à vous?
Il n'y a pas vraiment d'hypothèse qui tiennent complètement, puisque en rentrant en France après ce congrès de Kharkov, Aragon a de nouveau renoué avec Breton, qui lui pardonnait beaucoup. Breton l'admirait d'une certaine manière quand même. Et de nouveau, il a écrit ce fameux poème qui s'appelait Les Fronts Rouges, qui a fait scandale et qui lui a valu d'être poursuivi en justice. Fronts Rouges, qui est un poème où l'on appelle à fusiller un certain nombre de sociodémocrates, fusiller Léon Blum, feu sur Léon Blum, feu sur la social-démocratie, etc. L'interdiction de les poursuites qui ont eu lieu contre Aragon, les surréalistes ont aidé Aragon, en quelque sorte, l'ont soutenu.
Oui, parce qu'il a été inculpé pour provocation au meurtre.
Provocation au meurtre. Et les surréalistes s'en sont sortis en disant « mais c'est une licence poétique ». Ce qui était assez étrange, puisque c'était en certaine manière ne pas revendiquer la responsabilité de ce qu'on écrivait. Et Aragon, à ce moment-là, a pris fait et cause contre Breton et contre les surréalistes qui le soutenaient pour dire que leur position était intenable et qu'il rompait avec eux.
Donc c'est un moment finalement très important dans la vie d'Aragon. Il va à Kharkov, dénonce ce qu'il a fait jusque-là. Il est pardonné par les surréalistes. Les surréalistes l'aident devant les tribunaux. Et là, il va mettre un dernier coup fatal finalement à sa relation avec le surréalisme. Donc il fait un choix qui est un choix très clair.
Il a toujours besoin d'un groupe. Aragon ne s'est jamais pensé finalement, sauf peut-être à la fin de sa vie, en dehors d'un groupe, il rompt avec le groupe surréaliste pour entrer dans le groupe communiste, en quelque sorte.
Et alors, a-t-il rencontré Staline à Kharkov, ou a-t-il cherché, en tous les cas, à plaire à Staline?
Kharkov, c'était résolument réservé aux écrivains.
Mais disons qu'il cherche à plaire, peut-être, pour qu'on parle de lui jusqu'à Moscou.
Aux écrivains prolétariens. En plus, personne ne sait, en ce moment, à cette époque-là, en France, que peut être un écrivain prolétarien. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est un ouvrier qui écrit? Et Aragon n'en sait évidemment rien. Le prolétariat, Aragon ne connaît pas très bien, quand même.
Le désespoir est une forme supérieure de la critique. Pour le moment, nous l'appellerons bonheur. Pour le moment, nous l'appellerons bonheur.
Alors si le congrès de Kharkov a été une grand-messe, il y a eu une autre grand-messe 10 ans après, en 1941. C'est ce que vous appelez dans votre livre la messe de Weimar.
Oui. Ça, c'est complètement autre chose.
Et
on quitte évidemment complètement Aragon. Hein, la messe de Weimar, c'est la messe où sont allés un certain nombre d'écrivains français de la collaboration.
Mais on quitte pas tout à fait Aragon parce qu'il y avait Drieu-La-Rochelle. Et Drieu-La-Rochelle, c'était quand même le meilleur ami, voire l'amant de jeunesse de Louis Aragon.
Alors, les relations de Drieu et d'Aragon sont extrêmement compliqué. Je crois que l'un et l'autre, dire, se sont vraiment tus sur leur propre relation. Je crois que profondément, Drieu était à la fois totalement séduit par Aragon, c'est pas pareil évident, et en même temps totalement repoussé par l'idée même de l'homosexualité. Et jaloux à un point suprême, parce qu'Aragon représentait finalement tout ce que Drieu aurait aimé être comme écrivain et qu'il n'était pas. Et l'un des ressorts de l'ambition, je dirais, de Drieu, même sa prise de la NRF en 41, vient sans aucun doute de cette relation à la fois d'amour et de conflit avec Aragon.
Alors, quittons Drieu, quittons Weimar et retournons au communisme. Est-ce qu'il va y avoir une sorte de dégel au fur et à mesure des années, quand même, des convictions staliniennes d'Aragon, ou est-ce qu'on peut dire qu'il reste impur jusqu'à la fin?
Non, Aragon reste stalinien jusqu'à la mort de Staline. C'est pas sans le moindre doute, sans la moindre inflexion. Dire par exemple son attitude vis-à-vis de Nizan, qui a été tué en 1940, mais après avoir dénoncé le pacte germano-soviétique. Donc Nizan a été l'objet après 45 d'une campagne de diffamation absolument épouvantable, et Aragon a activé cette campagne dans la presse du parti et dans les revues, etc.
Il va défendre le pacte germano-soviétique.
Il dira rien sur le pacte germano-soviétique. Mais ceux qui ont dénoncé le pacte germano-soviétique sont évidemment des traîtres. Et de la même façon, son attitude vis-à-vis de Gide qui l'a lancé dans la littérature. C'est Gide qui a publié les premiers livres d'Aragon. À la NRF, lorsque Gide écrit son retour d'Urss, il devient l'ennemi. Faut dire que dès avant, Gide était publié dans l'Humanité, alors que Aragon avait beaucoup de mal lui-même à se faire publier dans l'Humanité.
Et après la mort de Staline, alors, parce qu'il y a quand même un certain nombre d'évolutions à noter.
Aragon suit le cours thorésien, je dirais, des choses, et ça n'est qu'après la mort de Thorez et surtout après l'intervention en Tchécoslovaquie en 68 que Aragon va prendre une légère distance avec la direction du parti et avec l'Union soviétique. Et va tuer, d'une certaine manière, de ce point de vue-là, les Lettres françaises, qui étaient son journal.
Et cette distance, elle prend aussi la forme d'un une espèce de soutien quand même à Solzhenitsyn, ou en tout cas à sa démarche.
C'est surtout un soutien, je dirais, plus à Kundera, par exemple, qu'à Solzhenitsyn. Avec Solzhenitsyn, les lettres françaises restent encore très, très, très prudentes. Mais Aragon, en revanche, publie une préface au premier livre de Kundera et intervient auprès de Gallimard pour que Gallimard publie ce texte. Donc ça, c'est véritablement la première vraie distance. Après, il parlera de Biafra de l'esprit à propos de l'intervention russe en Tchécoslovaquie.
En un mot, un livre que vous nous conseilleriez aujourd'hui, un livre qui serait le plus actuel d'Aragon en 2016?
Oh, ça c'est...
Politiquement, bien sûr, puisque c'est votre spécialité.
C'est pas ma spécialité. Non, je dirais que le Matisse roman dont parlait tout à l'heure me paraît un très grand livre et un de ces grands romans précisément que Aragon a voulu faire.
Et comme quoi, finalement, ce n'est peut-être pas la politique qu'on conserve à la fin chez Aragon. Merci beaucoup, Pierre Lepape.
Holy, holy, holy.
15h55 sur France Culture, c'est le moment de retrouver notre séquence de lecture de poésie. Toute la semaine, Jacques Bonafé vous propose une sélection de poètes libertaires d'Iran, récemment traduits par Reza Afshar Naderi.
Bonjour. Nous passons cette semaine avec les poètes d'Iran, des hommes, des femmes, représentant plus qu'une écriture, un engagement, un engouement public qui n'a pas d'égal dans nos sphères. Ahmad Shamlou est né à Téhéran en 1925, inscrit dans la mémoire collective comme l'emblème de l'opposition au régime de violence du Shah. Reza Afshar Naderi, traducteur et poète, lui consacre cet hymne, la légende d'Ahmad Shamlou, dont voici un extrait. L'homme, voici l'homme dans la meute des loups, de fureur est le siècle, de haine sont les croyances, les lendemains ternis par de sombres voyances, écoutez la légende d'Ahmad Shamlou. Les martyrs passés n'auront à rien servi, voici les chaînes, le fouet, les coups, le parjure, le bâton sur l'échine, les plaies ouvertes, l'injure, l'homme encore par l'homme asservi. Nous voici à nouveau sous le règne des loups, passé l'ordre des rois vient la fureur des dieux, c'est à l'heure de baisser la tête et les yeux que soudain retentit la voix d'Ahmad Shamlou. Un homme seul devant la haine qu'on déverse quand nos jardins accueillent la foule des assassins, lorsque du sang versé rougissent nos bassins, dans sa voix un air frais qui souffle sur la Perse. Voici venir le temps de la haine et des loups, on oublie ce qu'on est, on fait ce qu'on vous dit, ici-bas l'enfer, plus tard le paradis, écoutez la légende d'Ahmad Shamlou. Son nom béni marqué au fer de l'hérésie, la fureur étouffant la voix de la raison, ils installent le deuil sur toutes les saisons, sa parole à lui n'était que poésie. Et plus tard dans le poème, tout un peuple a pour toi, poète, ces mêmes yeux qui chantent la beauté, Aïda en ton miroir, ainsi qu'une ode claire montant de ce mouroir où chaque mot d'amour prend des airs d'adieu. Écoutons quelques mots d'Aïda dans le miroir d'Ahmad Shamlou. Tes lèvres, délicates comme la poésie, changent les plus lubriques des baisers en une telle pudeur que la créature des cavernes en tire avantage pour prendre forme humaine. Mais nous allons à un autre poème, un des plus fameux poèmes de Shamlou, en cette impasse. On vient sentir ta bouche, que tu n'aies dit « je t'aime », on vient sentir ton cœur, quelle étrange époque vivons-nous, ma toute gracieuse. Quant à l'amour, on lui donne le fouet le long des remparts sentinelles. L'amour, on l'enfouit au fond d'une arrière-cour. En cette impasse torve, torturée par le froid, brille l'amour par la grâce nourricière des chants et des poèmes. Ne te risque pas à penser, ma toute gracieuse, quelle étrange époque vivons-nous. Celui qui nuitamment martèle à notre porte est venu en meurtrier de la lampe, La lumière, on l'enfouit au fond d'une arrière-cour. Et voici que viennent les bouchers, veillant à tout passage. Ils apportent la planche et les hachoirs en sang. Quelle étrange époque vivons-nous, ma toute gracieuse? Ils écarissent le sourire sur les lèvres et les chants sur la bouche. La joie, on l'enfouit au fond d'une arrière-cour. Les canaris sont couchés sur la braise brûlante de jasmin et de lys. Quelle étrange époque vivons-nous, ma toute gracieuse? Iblis est triomphant, Satan dans la tradition orientale, ivre, attablé au banquet de nos deuils. Dieu, on l'enfouit au fond d'une arrière-cour.
Parler de Paradise Lost ou du profil gracieux et anonyme qui tremble dans les soleils de Shakespeare.
Jacques Bonafé lisait des poèmes consacrés à l'Iran dans la compagnie des auteurs au terme du troisième volet de notre série consacrée à Aragon avec Jacques Henrique et Pierre Le Pape que je remercie.